Sensation Rock avec à l'instant les Serratones, donc notre album découverte hein, depuis hier et aujourd'hui encore pour voilà cette avant-première, puisque l'album de ces Américains sortira vendredi. Et quel putain d'album! D'ailleurs, un groupe programmé au festival Cabaret Vert. Tiens, sans transition, bonjour Christian, Christian Alex, programmateur des Eurockéennes, du Cabaret Vert, du Paloma, de la Cartonnerie. J'arrête, sinon on y passe une heure. Tu vas bien?
Ça va, très très bien, ouais.
Eh bien, bienvenue hein, depuis l'année dernière. Donc, on avait déjà fait une petite interview ensemble hein, pour parler de la prog des Eurockéennes et puis d'autres choses, de musique et tout. Et bah, on va refaire pareil cette année. Serratone, tu les as programmés. Alors, c'est pas aux Eurock, c'est au Cabaret Vert.
Ouais.
Super groupe. Ben,
hein. En fait, on voulait les faire aux Eurockéennes avec Kem. Et puis, le groupe est venu faire quelques dates en Europe, là, courant, enfin, jusqu'à la début juin. Puis, ils sont repartis aux États-Unis tout le mois de juin. Et l'agent était assez. Mais content en fait que le groupe ne puisse pas rester un peu en Europe. Et je crois que le cabaret c'était la seule date, donc ce qui est un peu dommage pour ce groupe, parce que ça aurait été bien qu'on les voit beaucoup plus sur les festivals d'été, en juillet et en août quoi.
Ouais, bah ça dépote, hein, une sacrée voix la gamine, et puis
voilà quoi.
Bon, bah peut-être l'année prochaine, en tout cas, donc nouvelle édition des Eurockéennes, quasiment sold out, je crois, il reste que pour des places pour le dimanche, moi j'en étais resté là.
C'est ça, le vendredi et le samedi sont complets, et puis il reste quelques places là sur le dimanche qui est en train de se remplir à vive allure.
Alors est-ce à dire que, ça y est, la France est moins rock'n'roll, puisque le dimanche c'est quand même la soirée la plus rock finalement, et c'est celle qui remplit le moins vite, tu sens un petit frémissement comme ça, le moins de rock en France, ça remplit moins, je trouve, que d'autres styles, style électro, le hip-hop.
Non, c'est pas une affaire de style, c'est une affaire de que la France est très dominicale et reste un dimanche, ça reste une journée de famille où des fois on n'a peut-être pas forcément envie d'aller sur un festival ou voir des concerts, on a peut-être envie de rester tranquille, parce que même l'année dernière sur Sting par exemple, qui était quand même beaucoup plus populaire, c'était pas dans les premières journées complètes, même l'année où Blur était la seule date française sur un dimanche, bah pareil. Historiquement, en fait, tous les dimanches, c'est la journée qui se remplit le plus difficilement. Les vieilles charrues, je crois, ont fait le même constat. Voilà, il y a un truc sur le dimanche où, je sais pas, les gens s'y prennent un peu au dernier moment. Je pense que c'est psychologique, c'est une journée où les gens n'ont pas envie de s'imposer quoi que ce soit. Ils n'ont pas envie de réserver le resto, ils n'ont pas envie de réserver un festival, ils n'ont pas envie de réserver le cinéma.
Ouais.
Ils ont envie de se lever le dimanche matin, de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui.
D'accord, oui c'est vrai, t'as raison, c'est vrai qu'il y a des gros noms comme ça, puis le dimanche ça avait rempli en dernier à chaque fois. Oui.
Ouais, on a toujours eu des gros noms, enfin même les années où c'était très très populaire des dimanches, on a toujours constaté que c'était en dernier, que ça se remplissait. Je pense même si on avait eu des insus cette année de dimanche, je crois que même ça serait juste aussi la journée qui serait pas tout encore complète.
D'accord. En tout cas, une programmation alors toujours très éclectique. Hein, ça va de Nekfeu aux Insus à Louise Attaque. Et puis MHD. Il y a de l'électro, Ratatat. Enfin, plein de découvertes. Et je crois que vous êtes un des festivals qui fait sold out quasiment, avec une programmation exigeante et pas forcément que des grosses têtes d'affiche. Ça a été un pari finalement, parce que bon, c'était compliqué maintenant. C'est compliqué maintenant de se payer des Muse, des Coldplay, des Radiohead, ça devient des groupes super chers. Et finalement, vous avez réussi votre pari avec des têtes d'affiche un peu moins prestigieuses, ou prestigieuses plus nombreuses, hein, les deux. Vous réussissez maintenant avec plein de styles différents, avec des groupes peut-être un peu moins connus, avec des valeurs montantes, à remplir un festival, c'est une fierté.
Bah, ça a toujours été un peu notre credo hein, depuis qu'on est arrivé en 2000 à la prog des Eurockéennes avec Jean-Paul et Kem. L'idée c'était ça, c'était d'avoir un festival exigeant dans sa ligne artistique, visionnaire. Donc c'est-à-dire, quand je dis exigeant, c'est qu'on doit se conformer à un héritage rock. Alors quand je dis rock, faut pas se méprendre à tous les gens qui croient que le rock c'est un style, le rock c'est un état d'esprit, donc pour moi je mets le rap aussi et l'électro dedans, donc un héritage rock du festival avec des artistes marquants, qu'on fait l'histoire du rock, qu'on fait l'histoire de la musique pop, et puis visionnaire avec ceux qui demain seront les gros groupes, hein. Quand on a fait Arctic Monkeys en 2006, Gossip, enfin Amy Winehouse, tous ces artistes-là qu'on a fait alors qu'ils étaient encore en phase un peu ascendante.
Sauf Amy Winehouse, elle a été vite en phase descendante.
Alors ouais, malheureusement pour elle.
Oh, oui, ouais.
Quand on a eu de la chance, on a eu le seul et unique concert français qui était bien et où elle a joué. Mais on essaye toujours d'avoir ce côté très très marqueur de l'histoire de la musique, donc ça c'est pas facile. Cette année encore, on a essayé d'être là-dedans. Des papys classiques de la musique comme les ZZ Top ou la Fondation de Téléphone.
Ouais.
Des personnages plus marquants de la pop culture comme R ou Beck. Louise Attaque aussi dans la pop culture.
Et puis après, tu mettrais Louise Attaque dans la pop. Ouais,
toujours. Moi j'ai toujours mis Louise Attaque dans la pop culture. Parce que j'ai toujours considéré que leur inspiration était, de toute façon ils ont toujours revendiqué des racines plus proches des violentes femmes que de Léo Ferré ou de la chanson néo-réaliste, hein. Pour moi c'est un groupe qui vient d'une culture pop anglo-saxonne. Leur dernier album, il est produit à l'anglo-saxonne.
Ouais.
Autant Téléphone est un groupe de rock à la française, des accords de rock hyper classiques, voilà, ça c'est ce qu'a fait leur musique et leur son, c'est d'avoir été les premiers à faire l'énergie rock, mais de le chanter en français, donc tout le monde pouvait reprendre les refrains et les hymnes de Téléphone. Et Louise Attaque, moi je trouve qu'ils viennent en droite ligne de la pop culture anglaise.
C'est vrai que ça n'a plus rien à voir, hein. Louise Attaque 98, Louise Attaque 2016, on est complètement d'un. Enfin, je sais pas, je trouve, à part un peu sa voix comme ça, qui travaille, qui joue, mais on est loin de ces trucs au violon et tout comme avant.
Oui, je trouve qu'ils ont fait une compo de Louise Attaque de ce qu'on pouvait attendre d'eux en 2016, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas surjoué justement ce qu'avait fait leur notoriété à l'époque et leur particularité. Ils l'ont juste un peu sous-entendu par la voix de Gaëtan et puis par deux, trois accords derrière qui sont relativement légers. Et puis la production, elle est extrêmement moderne, mais sans faire des tonnes, tu vois, parce qu'ils auraient pu, parce que c'est quand même des bêtes de production. Gaëtan, sur ses albums solo, il a su s'entourer de mecs juste incroyables pour produire ses albums. Ils auraient pu faire un truc surproduit en disant, vous avez vu, hein, nous on est des tueurs en production. Ils l'ont fait juste à la bonne limite, je trouve.
Ah ouais,
donc voilà.
Ok, donc à suivre, hein, ça sera le... C'est quel jour ça, Louise Attaque ?
Samedi soir, sur la grande scène.
Le samedi soir, donc avec Beck aussi. Ouais. Alors, ça a été compliqué ou pas de programmer cette année ? Il y a quand même 47 festivals en Europe ce week-end-là, et c'est un peu la foire d'empoigne. C'était compliqué ? Est-ce que vous avez eu des stress ? Est-ce que vous avez eu des craintes de ne pas trouver la bonne tête d'affiche au bon moment avant la programmation, avant le lancement de la programmation en avril ?
C'est toujours compliqué, hein. Chaque année c'est très compliqué, mais c'est très compliqué pour les festivals français, j'ai l'impression, plus que pour les autres festivals européens, parce que le festival français, on a tous décidé de garder une ligne de billetterie, de prix de billets d'accès raisonnable pour le public. On est tous entre 40 et 50 euros sur une journée, on est tous entre 100 et 150 euros pour des forfaits, voire en dessous de 100 euros pour certains. Donc ce qui fait qu'on se retrouve sur des budgets artistiques et des offres artistiques qui sont en deçà de ce que certains festivals anglais, belges et autres, espagnols peuvent mettre. Mais aussi parce que ces festivals-là ont des prix d'entrée à presque 90, 80, 90, voire 100 balles des fois sur une journée, et des forfaits à plus de 200 euros. Donc du coup, c'est sûr que sur certains artistes, il y a des offres faramineuses qui ont été faites par des festivals européens. Et nous, en France, que ce soit les Charrues, Rock en Seine et les autres, on n'a pas non plus suivi sur ces offres, parce qu'on est surtout aussi en discussion avec pas mal de festivals. Donc on essaye aussi, des fois, qu'il n'y ait pas une espèce de canard solitaire qui fasse une offre démesurée sur un groupe. Et d'un seul coup, ça ferait complètement monter les prix de certains groupes sur la France. Et donc justifier des hausses complètement dingo. Donc on essaye tous d'être relativement raisonnables, ce qui fait qu'en fait la programmation, elle est assez stressante, parce que des fois on balance des offres sur des artistes, on sait à 80% que l'agent va la refuser, mais on tient quand même à la défendre, on tient quand même à expliquer pourquoi on fait cette offre, on tient quand même à expliquer que c'est les Orankiennes, le reste de la programmation, le cadre, le site du Bel Saucisse, son histoire, etc. Et puis des fois, une fois sur cinq, il y a un agent qui comprend et qui dit « Ok, je vais faire mon groupe chez vous, un peu moins cher qu'ailleurs, mais je vais le faire, quoi. »
D'accord, mais il y a un côté un peu peut-être aussi pervers quelque part, c'est que ça referme la France à certains groupes, par exemple, je pense à comment dire. Alors déjà ça ferme et ensuite ça fait une programmation qui est un peu ressemblante dans beaucoup de festivals finalement. On regarde les Insu, la Shadow, Falls, on les voit un peu partout et du coup les publics bougent moins. Alors après, est-ce qu'ils bougent beaucoup dans la réalité?
Je sais pas. Aussi, hein.
Ouais.
La Shadow,
oui, c'est vrai qu'ils sont partout.
On les revoit par les Insu, tu vois, pas sur d'autres festivals européens, mais on les revoit partout. Ce que je trouve assez génial en fait dans les Eurockéennes, c'est que dans les années 90, les Eurockéennes, ils avaient toutes les têtes d'affiche du monde entier. Ils avaient les plus belles programmations, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient réputés pour un festival européen avec un gros chéquier et qui pouvait tout s'acheter.
Il y a moins de festivals aussi, ouais.
Et il y avait moins de festivals. Mais ils étaient critiqués, et même le public désaffectait ce festival, puisque plus ils achetaient de têtes d'affiche, moins les gens venaient. Et quand nous, on est arrivé en 2000, il y avait même une vraie désaffection du public. Hein. Les fréquentations étaient quand même vraiment en chute sur les Eurockéennes. Et là, aujourd'hui, on va dire qu'on est redevenu... Alors, ça va donner de l'eau à moudre à Jean-Paul sur le salon du budget, ce que je vais dire, mais c'est que je trouve qu'on est redevenu un festival indé, et on est redevenu un festival, justement, où on n'a pas le gros chéquier, et où, du coup, on se retrouve à être obligé de faire une programmation de qualité, digne, qui doit tenir un état d'esprit, et à la fois malin, avec beaucoup moins d'argent que les autres gros festivals européens. Donc, c'est aussi ça, je trouve, des fois, qui est intéressant dans un festival, c'est réussir à monter quelque chose de différent, de pas pareil que les autres, mais avec des fois moins de facilité monétaire que les autres.
D'accord. Non, mais c'est vrai que c'était une bonne stratégie qui est payante, finalement, quand on voit qu'un mois avant, c'est quasiment complet. Des fois, il y a peut-être des frustrations aussi. Il y a des groupes qui sont peut-être chers au niveau international et qui n'ont pas suffisamment de succès en France pour être sur une grande scène, parce que le prix exigerait qu'ils soient sur une grande scène. Par exemple, je pense au Kings of Leon, un groupe qu'on voit quasiment plus en festival en France, parce que je pense que c'est un groupe qui a une notoriété mondiale super importante. Mais en France, Kings of Leon, voilà. Ça marche pas, c'est pas un peu frustrant? Des fois, il n'y a pas des groupes côté desquels vous passez et vous avez des regrets parce que justement il y a ce phénomène là.
Il y a beaucoup de groupes qui ont explosé aux États-Unis ou en Angleterre, qu'on a fait à une époque où ils étaient gros, en Angleterre, comme Casabian par exemple. Mais d'ailleurs, beaucoup d'Anglais étaient venus et puis avaient halluciné que notre festival ne soit pas complet, parce que pour eux, Casabian, c'est juste un énorme groupe. Il y a pas mal même Arctic Monkeys, hein, tu vois, on fait beaucoup de groupes en fait. Nous, notre programmation, les programmations sur certaines années du festival, ça aurait dû être complet en deux temps, trois mouvements si on avait été en Angleterre ou aux États-Unis. Donc déjà, on est dans ce truc-là, d'essayer d'avoir des groupes qui cartonnent sur les pays anglo-saxons et puis peut-être un peu moins en France. Après, quand ça arrive sur les King of Leon ou sur d'autres groupes comme ça qui demandent vraiment, vraiment beaucoup d'argent, hein, je crois que c'est entre 300 et 400 000 euros maintenant pour un King of Leon, bon, par rapport au public que ça va générer sur le festival, on n'est pas prêt à prendre le risque. Et en plus, on n'est pas très fan musicalement.
Ah ouais, vous n'êtes pas... Ouais, d'accord.
Nous, on préfère mettre de l'argent sur Kendrick Lamar ou sur des artistes comme ça, qui sont très gros aux États-Unis, qui sont pas encore en France. Enfin, il est gros, c'est gros en France, Kendrick Lamar. Il est surtout pas venu depuis qu'il a explosé. Ça, c'était un peu notre regret de l'année, pour le coup. Pour autant, on a essayé de le faire le dimanche et on attendait une réponse positive de l'agent. Et en fait, ils ont pas préféré faire la date parce qu'ils enchaînent un nouvel album et ils préfèrent attendre une prochaine tournée. Mais ça, c'est plus un... Voilà, c'est plus ce genre de groupe qui nous motive.
Ok. Alors on va parler de la programmation de cette année. Votre plus grande fierté, alors à toi, et puis peut-être si tu peux parler au nom des deux autres programmateurs, Kem, et puis c'est Vivien, c'est ça le...
Oui, c'est ça.
Voilà. Le nouveau, le troisième qui a rejoint l'équipe.
Ouais. Oh, alors une fierté.
Ouais.
Oh, alors, t'es salé,
allez, deux. Deux par personne.
Bah.
Un truc de t'es fier où t'as galéré, tu pensais jamais les avoir.
Je pensais pas les avoir.
Beck peut-être en haut.
Bah, c'est en fait ce que j'allais dire.
Ouais.
Beck, je pensais pas que ça allait le faire. Parce que Beck, il est quand même assez rare. à chaque fois qu'il fait des tournées, il fait des tournées qui sont quand même assez courtes et assez resserrées. Et honnêtement, il n'est pas hyper compliqué des fois sur les sélections de festivals où il va jouer. Nous, on a eu la chance de se retrouver sur le bon jour, le bon week-end, que c'était dispo et ils ont accepté la proposition. En plus, ça faisait vraiment très 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 longtemps qu'il n'était pas venu aux Eurockéennes, donc c'était vraiment un personnage qu'on avait envie d'avoir. Le fait qu'il joue la même journée avec R, on trouvait ça super aussi, parce que c'est des potes, et puis c'est la conjugaison un peu des deux. Voilà. Après, dans les groupes, peut-être il y en a trois sur la journée qu'on fait avec les Arrock à la plage. Il y en a trois dont on est très fiers et on est très contents. C'est Vince Staples en hip-hop, parce que c'est vraiment un gars qui est en train de devenir très très gros aux États-Unis, qui est très intéressant sur ce qu'il produit, ce qu'il fait en matière de rap indé en ce moment sur la scène américaine et puis même en Europe. Et ces gars-là, toute cette scène de rappeurs comme Travis Scott l'an passé et d'autres, c'est vachement dur de les avoir parce que la France, ils sont pas tellement habitués tant que ça à jouer en France. Même si on est un gros marché, il y a aucun festival qui leur fait des propositions, et je crois qu'on est un des rares et seuls festivals français à faire des artistes de rap. Donc d'avoir Vince Staples, c'était super cool. Il y a Bibi Bourelli, qui est une chanteuse, je dis rappeuse, mais même si elle ne rappe pas, elle a un flow, elle a une façon de jouer qui est très badass, comme on dit, c'est-à-dire un peu sale, quartier, comme ça, un peu des gaines lourdes, tout en faisant une rythmique des fois qui pourrait être folk song, caraïbe. Elle a fait des featuring avec Rihanna, et elle a sorti déjà un petit EP, et il y en a qui disent que c'est la future Amy Winehouse. Bon, moi je pense qu'ils y courent pas tant que ça, parce que c'est vraiment une fille avec un charisme absolument fou, et je pense qu'il faut pas louper son concert. Je pense que ça va être un moment un peu marquant du festival.
D'accord. Rappelle-nous quand ça sera.
Ça, c'est samedi, c'est à 20h30 sur la scène de la plage. Bibi Bourelli.
Bibi Bourelli, ok. D'autres noms comme ça? Oui, tu en as cité finalement pas mal.
Il y a notre ami Action Bronson qui revient. Chaque année, de toute façon, c'est pas que ça devienne mascotte, mais on avait fait venir il y a 2-3 ans sur le festival. Il avait joué sur la scène de la plage. On avait déjà essayé de le faire quelques années avant, même bien avant, en 2003-2004, à la création de Générique. On avait essayé de le faire sur Générique. Et on a toujours suivi et aimé ce qu'il faisait. Et là, cette année, il y avait quelques festivals où il voulait venir en Europe. Et nous, on s'est mis direct dans la boucle. Et je crois que c'était le premier artiste confirmé. Je crois qu'il nous a confirmé sa venue en octobre 2015.
D'accord.
Et ça va jouer le dimanche sur la Green Room. Et bon, s'il fait le même show qu'il nous avait fait sur la scène de la plage, je pense que ça va être un super moment.
D'accord. Puis il y a un autre groupe aussi, moi, que j'aime beaucoup. J'ai vu au Paléo il y a 4 ans. Ouais, c'était 2012 déjà. Ça passe. C'est Kurt Weill.
Oui.
Qui est vraiment bien, même si son album est plus intimiste, là, le dernier qui était sorti l'année dernière. C'est quand même un gars qui transpire le grunge finalement, hein, sur scène. Faut s'attendre à ça, tu penses, ou justement le dernier album va plus ressortir, côté plus posé, plus folk?
Il transpire le grunge parce que quelque part il veut lorgner un peu vers ce qu'était Neil Young à un moment, et en même temps il essaye de sortir les guitares un peu plus dures. Après, c'est quand même un gars qui vient d'une culture country americana plutôt bien écrite, avec des super titres. Ce qui est assez marrant sur Kurt Weill, c'est que nous, ça fait un bout de temps en fait qu'on voulait le faire, mais on hésitait toujours un peu. Et au mois d'octobre l'année dernière, on allait sur un festival à New York avec Jean-Paul Ekem, et en ville, en se baladant, on voyait des panneaux, mais des 4x3 immenses, qui annonçait pour l'album de Kurt Weill, en fait, des trucs mais énormes, quoi, type la guerre des étoiles, quoi.
Ah ouais, c'est fou, ça.
Et on s'est rendu compte en fait de la taille, de la notoriété du gars aux États-Unis à travers ses panneaux publicitaires, et je sais pas pourquoi ça nous a encore plus motivés en fait. Et quand tu parlais tout à l'heure d'artistes connus ailleurs et peut-être un peu moins en France, lui s'en faisait partie, et on s'est dit mais c'est quand même un type finalement, au-delà de faire des albums incroyables, qui commence à être très très reconnu dans la musique aux États-Unis et ailleurs. Et donc du coup voilà, ça nous a un peu motivés à le faire venir, et et je pense que le concert va être super. En tout cas.
Ouais, c'est une petite scène, c'est vrai, vous l'avez mis à la Loggia, c'était peut-être pour pas prendre trop de risques, ouais, pour par rapport à l'autorité française.
Petite scène, tu sais, tu mets quand même, tu peux mettre quand même pas loin de 5000 personnes devant.
5000 personnes la Loggia, ouais.
Bah maintenant comme elle est faite, comme tu quand t'es face à la grande scène et que tu tournes face à cette Loggia, cette année en plus, elle a été redimensionnée et repositionnée pour que les gens puissent avoir un confort de vue. On peut facilement être à 5-6 000 personnes, ouais.
Ah ouais, d'accord. Oui,
donc bah, une petite scène, si on veut.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. Allez voir Kurt Weill, moi ça a été une putain de claque, je connaissais pas du tout en fait en 2012 et j'ai vu ça au Paléo, waouh, c'était vraiment bien. On va faire une petite pause musicale, Christian, on va écouter Black Honey, tiens, que vous avez programmé, que vous avez testé, enfin que vous avez fait
générique.
Sur générique. Et là il y a l'album qui va arriver, je crois que c'était pour mai, je l'ai pas vu passer, alors je sais pas si c'est sorti déjà.
L'album ?
Ouais.
Je suis pas sûr qu'il soit sorti.
Ouais, je crois pas. Il me semble que c'était annoncé en mai et je l'ai pas vu. C'est...
Non, je crois pas qu'il soit sorti en France, en fait, cet album-là encore.
Bon, on écoute Black Honey et on revient juste après. Black Honey, donc, qui était au PDZ dans le cadre du festival générique, qui seront aux Eurockéennes de Belfort. Il y a quelques groupes comme ça que vous faites, comme El King, par exemple. C'est quoi ? C'est une espèce de soul américaine ? Comment tu qualifierais ça ? Comment vous avez découvert ce groupe ?
Par contre, Black Honey, ils ne seront pas aux Eurockéennes.
Black Honey, ils ne sont pas aux Eurockéennes ?
Non.
C'est vrai ?
Tu les as vus, t'as vraiment envie qu'on les fasse.
Ah non, mais je sais pas, l'autre jour, quand la prog, j'ai décrypté, ça date d'avril, quand je sortais la conférence, je regardais, et alors je confonds peut-être avec un autre Black. Et
alors, qui tu peux convaincre. Black Keys, on les fait pas non plus.
Non, ah ouais, ils sont pas. Non, chaque année, ça m'arrive comme ça, dans une prod
Black
comme ça.
Keys, non plus.
Et un groupe comme ça que je place, et puis il n'y est pas. Alors, je sais pas pourquoi, des fois, tu sais, tu confonds, tu te dis, ah non, c'est pas dans ce festival, c'est dans un autre, et puis tu l'as mis au The Rock. Bon,
écoute,
bah, désolé.
On va regarder avec Ken si on peut programmer Black Keys en dernière minute.
Putain, le con. Ah, du coup, non, vraiment, ça m'arrive. Ça m'est déjà arrivé il y a 2 ans, je crois, de placer un groupe comme ça. Je l'ai vu dans un autre festival, puis je sais pas, après, en faisant l'interview, je dis, ah, c'est aux Eurocaines. Bah non, c'était dans un autre festival.
Écoute, bon. Cool. En tout cas, tu nous as fait du teasing, donc du coup, comme l'album n'est pas encore sorti de Black Coney et qu'il va sortir plus tard, du coup, tu nous motives pour l'année prochaine.
Puis juste avant de le passer, je lui ai dit, ah, je vais parler de Black Coney, il va réagir dessus, de comment je l'ai programmé, tout ça. Mais merde, il a rien dit dessus.
Mais hey, n'empêche que j'adore. Et tu me parlais de LA King. LA King, c'est pas tout à fait le même délire que Black Coney, parce que LA King, qui, elle par contre, elle joue réellement le samedi. Et
Bah oui, là, je peux pas me tromper, pas tout le temps quand même.
Alors, ça, c'est en fait, c'est la partie, on va dire, comment dire, mainstream FM de Kurt Weill. C'est-à-dire, en fait, on est dans la country américaine, dont les chansons sont produites. Elle a une voix extraordinaire. Elle a une posture, une attitude incroyable. C'est une petite blonde un peu comme ça, boulotte tatouée, mais quand je dis boulotte, c'est pas péjoratif, c'est parce que je trouve que ça lui donne un charme un peu comme ça, un peu rural, tu vois. Elle le joue hyper bien, elle a une voix super puissante et elle fait des hymnes de country américaine, mais très produit derrière, tu vois. On sent vraiment que c'est produit pour rentrer dans les FM américaines, et d'ailleurs je crois qu'elle le réussit bien, parce qu'elle a un single qui est classé numéro 1 ou numéro 2 dans les charts américains, et donc c'est vraiment gros carton pour elle.
Puis là, il y en a un deuxième que je vais passer tout à l'heure, d'ailleurs, tiens, qui nous est arrivé hier, sur la bande originale d'une série, je sais plus, j'ai lu ça hier, je sais plus quelle série, et ouais. Donc ça va encore lui donner encore plus de notoriété, finalement, ce truc-là.
Ah, mais là, c'est à chaque fois qu'elle sort quelque chose, en ce moment, particulièrement sur les États-Unis, c'est énormément de vues, hein. Ça y va à des millions de vues. Et donc, quand l'agent nous a proposé, parce qu'en fait, nous, à vrai dire, on n'avait pas vraiment pensé à LA King au début, on connaissait pas tout à fait non plus. C'est son agent qui nous a envoyé un lien en disant, bon, elle a tourné sur l'Europe sur ces périodes-là, et on aimerait beaucoup faire un festival, on va dire, rock, pour s'exposer et se montrer. Nous, on a écouté, puis finalement... alors il y a eu Kem plus que Jean-Paul et moi, nous on n'était pas hyper chaud. Kem a vraiment voulu soutenir le projet. Il trouvait que c'était hyper intéressant, donc voilà, on l'a mis le samedi sur la Green Room, et puis voilà.
Je trouve qu'il y a dans l'orchestration, il y a un petit côté Astéroïde Galaxy Tour, je trouve, un petit peu.
Ah, c'est peut-être plus sa voix perchée qui te fait penser ça, non?
Peut-être la voix, puis je sais pas, le choix des instruments aussi, il me semble.
Ça ressemble moins à Black Coney, en tout cas.
Ouais. Bon, arrête, hein, je te reparle de Primal Scream et Tiens Dao. Hein.
Et Tiens Dao, mais je maintiens.
Attends, tu m'en as sorti une autre aussi. Attends, c'est quoi là, genre, l'autre fois, la conférence de presse aussi, où t'as comparé quel groupe M83 avec quoi? T'as fait un rapprochement pareil, je te l'ai sorti.
M83, je sais pas.
Tu te souviens plus? Oh là, t'as fait un rapprochement. Je dis, ah bon, il nous fait le même coup qu'Étienne Dao et Primal Scream. Cette année, j'ai oublié, tant pis. Voilà.
Bon, l'intérêt déguisé, l'excitation des gens, ils écoutent, ils se disent, tiens, voyons.
Bon, MHD, c'est programmé aussi, ça. Peux-nous en parler un petit peu, parce qu'on le voit on va le voir partout à la rentrée aussi, MHD, on le voit déjà là, il est dans plein de festivals, c'est le truc qui explose aussi, ça.
En fait, nous on fait toujours notre petite session So Fresh, So French, où en fait l'idée, c'est de mettre en avant les nouveaux talents de la rap culture à la française, et puis de cette façon de faire de la street culture, on va dire, et dedans on a intégré MHD et Vald, qui sont deux artistes qu'on aime bien en fait en rap français. MHD, ça fait un bout de temps qu'on écoutait en fait au début c'était pas, ça s'appelait pas MHD d'ailleurs, c'était marqué Collectif Afro Trap, et on aime bien leur zik, et c'est devenu MHD, ben on a fait la proposition, et comme sur cette session So Fresh So French, on avait proposé à un collectif qui s'appelle Le Whoop, qui est un collectif de stand-up, de faire leur spectacle en version resserrée, intercoupée, enfin tu vois, retaillée, et qu'on leur avait dit, ben, c'est comme si on arrivait dans votre spectacle, et dans votre spectacle, il faudra inviter deux artistes, et qu'on a parlé de MH et de Val. L'idée les a tout de suite séduits, et ils ont tout de suite trouvé ça cool, parce qu'en plus c'était des potes à eux. Et donc voilà, mais après c'est vrai que maintenant, bon, MHD il est en train d'exploser, c'est pareil, il y a des millions de vues sur YouTube chaque fois qu'il sort quelque chose. Donc du coup on le voit un peu sur tous les festivals. Voilà, bon, c'est cool pour lui. Moi, il y a un moment donné où cette espèce de tout le monde se réveille d'un seul coup en trouvant que ce musicien est juste génial parce que il génère des millions de vues sur YouTube et que ça va ramener du public sur le festival, ça me gêne un peu.
Tu vois, c'est un peu comme le phénomène fauve, peut-être, non?
Ouais, c'est ça. Mais peut-être aussi parce que je deviens vieux et que je deviens un peu sale con et que à un moment donné où quand les choses deviennent trop populaires et puis que ça devient que tu sens le côté très opportuniste de certains événements parce qu'ils programment tel artiste parce que ça leur ramène du monde, bah moi j'ai presque envie de faire l'inverse, tu vois.
Mais t'y crois, toi, à ces phénomènes comme ça, les millions de vues d'un coup qui s'orientent vers un artiste comme le phénomène fauve, comme MHD, il y en a eu d'autres comme ça. Est-ce que tu crois que c'est naturel ça, que ça se fait naturellement, ces millions de vues comme ça, où il y a des boîtes en marketing qui sont super balèzes et qui savent orienter les vues? C'est parce que c'est quand même, je comprends pas des fois certains buzz comme ça, comme Jane, tiens, Jane, là, en ce moment, le phénomène, là.
Bah, faut quand même est-ce que la question, c'est est-ce qu'il y a des boîtes de marketing qui, au départ, arrivent à intégrer ton cerveau pour connecter un maximum de public qui vont aimer Jane, qui vont aimer MHD, qui vont aimer Fauve, ou est-ce que toutes ces millions de vues sont vraiment réelles ou pas inventées? Il y a quand même des... C'est quand même assez particulier parce que Fauve, malgré tout, c'est incontestable que nous, la première fois où on les a fait, ils étaient totalement inconnus. Et le groupe a quand même vraiment cartonné sur scène. Hein.
Ah bah ouais, non mais la Loggia, il n'y avait plus de place, quoi. C'était un truc de fou. Là,
bien sûr.
Pour le coup, c'était sous-dimensionné, mais ouais, il y a un truc...
Jane, c'est pareil, ça se transforme en vente de billets pour les concerts. MHD, bon, pour l'instant, on ne sait pas trop parce qu'il n'a pas vraiment tourné, il part dans les festivals. Mais après, je veux dire, les téléchargements... Les téléchargements payants sur les Spotify et Deezer du single d'MHD, c'est le gros carton aussi. Hein.
Ouais.
Ah bah, tu vois, donc il y a quand même une grosse part de réel. Hein. Je veux dire qu'à un moment donné, tu sais, il y a une génération quand même aujourd'hui qui est très jeune, qui a entre 15 et 18 ans. Consommateur de musique sur le net, qui fouine.
Ouais, mais je suis d'accord, mais des groupes comme Fauve, comme MHD, comme il y en a des milliers finalement. Alors pourquoi plus sur un que sur l'autre? C'est ça qui me... Tu vois,
Ils sont bons.
Non, mais ils sont bons, mais il y en a d'autres qui sont bons. On croule, enfin, même toi, du Dolvoir, enfin, en Franche-Comté, on a des sacrés groupes qui sont super bons.
En Bourgogne, Franche-Comté.
Oui, c'est vrai. Ouais, t'es un bourguignon, toi.
Oui, je suis bourguignon.
On sait plus douter maintenant, t'es partout.
Non, je reste bourguignon franc-comtois, voilà.
Quand même, voilà. Non, mais c'est ça qui est, voilà, qui est, je trouve, voilà. C'est pour ça que je me dis, des fois, il y a des fausses vues comme ça sur YouTube, qui sont peut-être, j'en sais rien, moi, des accords avec YouTube, enfin, c'est des trucs qui me paraissent quand même surprenants.
Oui, mais après, c'est certainement que les choses sont pulsées à un moment donné.
Ouais, pour que les médias ensuite en parlent. Alors, regarde, celui-là, il a 100 millions de vues. Ah, bah, tous les médias vont en parler. Bon, bah, c'est bon, ce coup-ci, on vend des billets, quoi.
Oui, mais il n'empêche que derrière, il y a quand même un public qui partage. Parce que quand tu vois qu'il y a beaucoup de vues, tu vois quand même, moi, je vois dans les réseaux dans lesquels on peut être, que. Et ça, moi, je le vérifie souvent par rapport à mon gamin ou par rapport aux enfants de ma chérie qui sont dans des tranches d'âge de 11 ans à 20 ans et qui sont à fond sur le net et partagent beaucoup de choses. Et souvent, quand je vois justement des phénomènes comme MHD et que un peu en avance, moi, par rapport à eux, je découvre le groupe et quand je leur en parle, ils connaissent pas. Et à un moment donné, où quand ça commence à s'énerver sur le net, c'est une corrélation avec eux où je les vois à commencer à me parler de MHD, qu'ils ont échangé ça avec leurs potes, que c'est en lien sur leur Facebook, etc., tu vois.
Ouais.
Donc ça correspond quand même vachement, tu vois. Je veux dire, Nekfeu, c'était ça, hein, aussi. Hein.
Alors, Last Train, à l'inverse, c'est pas le... On va dire qu'il y a des millions de vues comme ça. J'ai l'impression que ce groupe a été... Alors, c'est très bien, hein, Last Train. Moi, j'adore. On l'y suit, nous, depuis 2013, là. Mais j'ai l'impression que ça a été saisi par le milieu professionnel et boosté par le milieu professionnel de la musique.
Oui, mais la France, on n'est pas un pays de rock. Hein. Ben donc, oui. Je veux dire, à la limite, Téléphone, ça a été vraiment un cas à part d'un groupe de rock, qui, enfin d'un groupe qui a réussi à faire des millions de spectateurs sur leurs concerts et de cartonner en faisant du rock'n'roll. En général, la France, on n'est pas du tout un pays de rock. La plus grande star de rock française, qui est Johnny Hallyday, honnêtement, on ne peut pas dire que ce soit non plus le rock'n'roll. Donc, comme on n'est pas un pays de culture rock, et juste quand tu reparlais de MHD, Nekfeu, tu vois, pour le coup, les millions de vues aujourd'hui sont plus générés par rapport à des artistes qui viennent de la base rap, électronique ou une pop un peu sucrée comme Jane, ou de la chanson, on va dire, néo-pop comme Ellie J aussi. Comme on n'est pas un pays de rock, c'est sûr que Last Train, c'est sûr que False, c'est sûr que tous ces artistes dont tu parlais tout à l'heure, qui sont des artistes qui peuvent cartonner à l'international, qui peuvent cartonner aux États-Unis ou en Angleterre, chez nous, ils cartonneront jamais, parce que c'est pas dans nos gènes, c'est pas dans notre façon d'aimer la musique. Nous, avec les rockaines, on n'a pas pris le chemin le plus facile, on prend le chemin de la rock culture. Donc on est quand même dans le chemin parallèle, on n'est pas dans le chemin de la variété. Et c'est sûr que des groupes comme Last Train, aujourd'hui, s'ils n'ont pas une sorte de coup de projecteur du milieu professionnel, et pour le coup même d'avoir fait des premières parties de Johnny Hallyday, d'avoir le respect d'artistes extérieurs à la France, d'avoir des festivals comme au Générique, ou même nous les Europe et d'autres qui les poussent et qui disent mais ce groupe est juste forcément génial sur scène. Un groupe comme ça, il marche jamais, hein, en France.
Ben oui, c'est ça.
Ça fera jamais en radio, il fera jamais des stades.
Il y a que Zegut qui a un peu craqué sur eux, et puis c'est vrai qu'il les passe aussi, mais c'est le seul, on va dire, média national qui le fait, quoi. Voilà. Mais allez voir les Last Train, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est vraiment génial sur scène. Juste une autre question aussi, c'est vrai que ça fait, on y a un rythme bizarre dans la programmation des Eurocaines. L'année dernière, 67, 68 groupes, il y a deux ans, 51, 52, je ne sais plus, cette année, 53. Pourquoi ça varie comme ça?
Ça va, je ne sais pas, il y a eu des années où, si tu prends quand on avait le club de ville, où on était à 75-81.
Ouais.
Tu sais, en fait, on s'est jamais posé la question du nombre de groupes, en fait.
D'accord. Vous dites pas, il faut 4 têtes d'affiche sur la grande scène, il faut autant sur le green room. Non, d'accord. C'est...
Non, en fait, comme on se cale, la grille de programme, on calque jamais d'une année sur l'autre notre grille de programmation. Je pense que ça serait assez intéressant d'ailleurs qu'on prenne toutes les grilles de programme des 10 dernières années, puis qu'on les calque. On verrait vraiment la façon dont ça bouge. Mais on prend l'ouverture des portes, la fermeture des portes, l'ouverture des portes du vendredi qu'on considère des fois de plus en plus tard, parce qu'on considère que les gens bossent le vendredi. Là, en plus, on est dans des périodes où encore la vie scolaire n'est pas totalement finie. Les gens bossent, il y a des bouchons, il faut accéder au site, etc. Donc, d'ouvrir les portes à 16h, alors que tu sais pertinemment que les gens sont sur les routes encore à cette heure-là, et n'arrivent pas à accéder au site, et faire commencer des concerts à 17h, bah, tu te fais engueuler par le public qui n'a pas pu accéder et puis voir ces concerts-là. Donc, on préfère ouvrir un peu plus tard sur le vendredi. On a donc les heures de fermeture avec un samedi dimanche qui est toujours beaucoup plus tôt en heure de fermeture, historiquement à 1h, 1h30 le dimanche soir au lieu des 3h le vendredi et le samedi. Et puis après, en fait, quand on fait notre programmation, tu vois, par exemple, les Insudes, on aurait bien aimé les faire jouer vachement plus tard. S'ils avaient pu jouer à minuit sur la grande scène, ça aurait été bien. Bon, l'agent voulait pas, et il a considéré que c'était mieux que le groupe joue à 22h30, qu'il y avait un public peut-être aussi un peu plus âgé, que c'était plus mixte et que les gens n'avaient pas le temps de minuit, etc. etc. On a été d'accord finalement avec lui, on les a mis à 22h30. Donc finalement, il faut que tu construises ton truc autour de ta tête d'affiche, il faut que tu mettes des groupes en face qui ne soient pas des groupes qui se fassent bouffer par la tête d'affiche, faut que tu trouves ton harmonie de style, etc. etc. Donc voilà, en fait, c'est un peu pour ça que à chaque fois tu peux en mettre 53, des fois tu peux en mettre 60. Ça dépend des fois.
D'accord, il n'y a pas de règle, quoi.
Non, okay. En fait, honnêtement, on se fixe pas de règle. J'ai eu pas mal de critiques de gens sur le Facebook qui disaient oui, vendredi. Ou en général, vous allez nous expliquer les 10 groupes de moins sur les Europes. Mais merde, attends, sans déconner, on a à justifier de quoi des 10 groupes de moins. Je veux dire, maintenant, les gens, ils ont l'impression qu'ils payent leurs impôts quand ils viennent dans un festival. Il faut justifier de plus de groupes par-ci, moins de groupes par-là. On n'est pas dans la consommation, tu vois. Mais ça va, quoi. Ouais. Donc, okay. Donc là, nous, pour nous, c'était l'équilibre intéressant, la mise en progression aussi qui est intéressante du vendredi vers le dimanche. Et voilà, le dimanche et le vendredi et le samedi, pardon, on reste avec une très très grosse densité. Hein.
Mais le vendredi, ça va amener un public, qui n'est pas expérimenté festival. Je pense, peut-être comme Stromae, ça a été peut-être un peu le cas aussi. Et moi, je connais plein de gens qui viennent jamais en festival. Ils font de temps en temps un concert dans un zénith comme ça. Puis là, ils viennent. Il y a encore des gars qui me disent, moi, je vais venir aux Eurocaines. Si on part une heure et demie avant, ça suffit de Besançon. Je te conseille de penser plus 3 heures qu'une heure et demie. Ils n'aient pas peur d'un énorme embouteillage à 20h30. Pour l'arrivée aux Eurocaines à cause de ce phénomène-là.
C'est sûr, on anticipe ça. Ça va être assez curieux, en fait, cette année. C'est assez curieux et flippant, en fait, à voir le mélange des deux publics. Parce qu'on a quand même énormément cartonné sur des forfaits 3 jours, puisqu'ils sont même très supérieurs en vente à ce qu'on a habituellement, et donc même par rapport au ticket du vendredi. Donc, ça veut quelqu'un qui prend un ticket 3 jours, j'imagine que c'est pas quelqu'un qui veut voir que les insus.
Il y a quoi, 15, 20 000 forfaits 3 jours?
Je crois que c'est quelque chose comme ça, pas loin de 25 même.
Loin de 25, d'accord.
Ouais. Okay. Et du coup, en fait, ça va être la confrontation d'un public, on va dire, peut-être plus insu, donc un trentenaire, quadra, bien qu'il y en a qui viennent avec des gosses aussi qui ont envie de voir les insus. Avec un public vraiment de festivalier, avec tout ce qu'on connaît du délire festivalier. Et ça va être ce mélange des deux qui va être intéressant à voir. Quoi.
Ok. On écoute les Hell Kings et on revient pour conclure juste après.
Allez,
le nouveau single tiens, des Hell Kings, c'est parti.
Thank you.
oui, c'est fini, nous on discute hors antenne et puis du coup on voit pas le temps passer. Les Hell King qui seront bien sûr aux Eurockéennes pour le coup. Voilà. Christian, t'es toujours avec moi. Christian qui, voilà, un regard intéressant hein, puisque tu programmes plein de choses dans plein d'autres festivals, dans plein d'autres salles et voilà, d'avoir ton avis sur les Eurockéennes aussi, bien sûr, que tu programmes. Et j'ai l'impression que Jean-Paul Roland aussi programme maintenant. Non, il est toujours avec vous quand il se déplace dans les festivals.
Ça a toujours été le cas. En fait, on a depuis 2000, on a longtemps cherché notre formule de fonctionnement. Jean-Paul, il a une vision de communication. Il a une vision de comment on market. Mais c'est pas un mauvais nom hein, de dire de marketer. C'est comment on rend lisible un objet qui est un festival. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a un fonctionnement qui est très intéressant dans la façon dont Jean-Paul pense l'image du festival. Donc graphiquement.
C'est un graphiste écrit, d'ailleurs, hein, il a commencé là-dedans.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. L'objet comme ça qu'on voit d'extérieur des Eurockéennes, et puis comment nous on alimente le contenu et comment on donne une logique, tu vois. Et je trouve que c'est aussi pour ça, je pense, que les Eurockéennes fonctionnent aujourd'hui. C'est qu'il y a une logique vraiment induite quand tu lis les Eurockéennes entre le contenu qu'on peut amener en programmation, l'objet artistique que Jean-Paul pense, le site du Malsaucy, l'état d'esprit après que tu vis sur site aussi, parce que ça c'est vachement important, parce que tu peux faire un bel objet artistique en amont avec un super casting et puis quelque chose de bien construit, puis que ce soit la promesse ne soit pas réelle sur site. Et donc ce qui est toujours compliqué, c'est ça, c'est de réussir à faire fonctionner la mise en bouche qui est le visuel avec un James Dean, avec son premier teaser, les premiers noms annoncés, le déroulé après de la programmation, les moments particuliers du festival, que ce soit d'avoir les In Rock qui sont invités sur la plage des Eurockéennes, ou le Whoop, ou la création du Balani Show Business de Bamako, et puis les têtes d'affiche, et puis après le moment où on passe à le scénario d'approche du festival, tu dis tu vas vivre ci, tu vas vivre ça sur le festival, et puis après ce que tu vis sur le festival, et après les rumeurs qu'on en ressort par internet, par les partages sur Facebook, au moment et après le festival, et que tout ça soit logique et reste un objet précieux qui font que c'est les Eurockéennes, tu vois. C'est ouais. Ce truc-là qui est délicat chaque année de remettre sur les rails et qu'il faut recréer, tu vois, faut, sans que ça soit quelque chose de trop répétitif non plus et trop sans surprise, tu vois.
Ouais. Clairement. Et alors, les In Rock qui font leurs 30 ans cette année, ils font quelque chose avec vous cette année. Vous allez faire quelque chose avec eux aussi en novembre. Mathieu Pigas, la liaison un petit peu derrière tout ça. Alors déjà, comment s'est fait cette rencontre, Mathieu Pigas, le grand financier de la banque Lazare, propriétaire à titre individuel du Monde. Il a quoi, Nova? Il a les In Rock. Il a voilà un gars qui est
Vice TV.
Ouais. Donc voilà, comment ça s'est fait cette rencontre pour en faire de lui un président en fait, voilà, des Eurockéennes.
En fait, J.D. Beauvalet, le rédacteur en chef des In Rock, on le connaît depuis très longtemps. Bizarrement, il n'est jamais venu aux Eurockéennes, mais il a toujours été grand supporter des In Rock.
Ouais.
On s'est toujours vu plein de fois sur Paris, on s'est vu à Brighton, puisqu'il vit à Brighton, quand on allait au Great Escape. Et depuis un bout de temps, on voulait faire des choses ensemble avec les In Rock, mais de façon très concrète. Et puis, une année, Jean-Paul avait demandé à... Parce que J.D. Beauvalet avait appelé Jean-Paul quand Pigas avait racheté les In Rock. Avait appelé Jean-Paul pour lui demander des places pour Pigas, qui était le nouveau patron des In Rock, qui était fan de rock et qui voulait venir aux Eurockéennes. Donc Jean-Paul avait donné des places, Pigas était venu, je crois qu'il était venu avec Fleur Pellerin à l'époque, et Jean-Paul l'avait rencontré, ils avaient plutôt bien sympathisé. Pigas était tombé assez amoureux du festival, il aimait vraiment le côté rock, lui, parce que lui c'est vraiment un punk rocker dans l'âme, il aimait vraiment la culture, même punk en fait. Et du coup il est revenu après tous les ans, régulièrement. Il y a un an, c'était posé la question du renouvellement du président des Eurockéennes. Et quand je te dis que Jean-Paul a toujours de bonnes idées, toujours un peu le coup d'avance, il a pensé à ce personnage qui était rock, qui était comme nous, tu vois, qui était au-delà de son côté banquier et tout, qui adorait la musique, qui adorait l'énergie de notre festival, et qui en plus avait une notoriété et puis un carnet d'adresses aussi qui permet aussi aux Eurockéennes de
d'aller chercher du mécénat peut-être.
De nous aider aussi dans cette voie-là. Après, c'est Fred Adam qui le fait, mais je veux dire, c'est vrai que si Mathieu Pigas reçoit des chefs d'entreprise durant les Eurockéennes cette année, ça facilite aussi certainement le lien. Et puis donc du coup, voilà, et Jean-Paul nous en a parlé l'année dernière avec Kem au moment de c'était à This Is Not a Love Song à Nîmes. Et moi,
programmé par qui
génial, moi j'ai dit attendez, l'idée elle est super, tu vois, et puis voilà, et puis ça s'est arrivé comme ça, et puis après dans la suite la plage qu'on fait avec les Inrock cette année n'est pas du fait de Pigas, en fait c'est vraiment là pour le coup, là c'est la suite de nos relations avec JD Beauvais et Pierre Siankowski qui venait d'arriver à la direction des Inrock, qui est une connaissance de longue date avec qui on échangeait assez souvent, qui nous ont dit tiens c'est les 30 ans des Inrock l'année prochaine et tout, et puis là on s'est dit mais écoute, il y a quand même une vraie proximité de caractère entre ce que les Inrock soutiennent et développent dans leur magazine depuis des années, depuis 30 ans, et puis ce que nous on développe avec les Eurockéennes aussi depuis presque 30 ans. Et donc voilà, on leur a proposé, et surtout à JD, on a dit écoute, montons cette programmation de plage ensemble, faisons un truc qui soit à l'image de ce qu'on aime musicalement, et voilà, et on va remettre le couvert après le 20 novembre à la Cigale à Paris dans le cadre du festival des Inrock. Et voilà, ça va être cool.
Bah écoute, bien en tout cas, belle initiative. On verra JD Beauvais cette année alors aux Eurock.
Oui, il a dit qu'il venait.
Il a dit qu'il venait.
Il mixe, il vient avec la A-Rock DJ Team.
Ah, d'accord.
Qui mixe entre les concerts. Et non, JD a dit qu'il venait. Mais tu vois, c'est. En fait, c'est quelqu'un d'assez discret. JD, c'est un passionné de musique, mais qui est pas. Là, c'est pas quelqu'un qui va traîner les cocktails parisiens, les grandes soirées mondaines parisiennes. Donc il est plutôt discret, mais donc c'est pour ça qu'on le voit pas tout le temps sur les festivals. Ça n'empêche que le type, il vit à fond la musique, et c'est un malade mental de musique, de consommation de musique. Et voilà, et je trouve que c'est super excitant. Enfin, à chaque fois, moi je l'ai encore vu la semaine dernière, tu vois, on a bu un verre ensemble, on a parlé musique, on a parlé cinéma, c'est le type, il t'apprend plein de trucs, quoi.
Ouais. Donc, moi j'avais rencontré la conférence de presse là, des Eurock, c'est vrai que voilà, je lis souvent sa petite chronique tous les jours où il poste un titre qu'il a repéré sur le net, et voilà, j'aime bien cette petite rubrique quotidienne sur le site, et puis ça m'a fait plaisir de le rencontrer aussi là, en avril.
Tout à fait.
Ok, bon bah écoute, on pourrait parler encore plein d'heures ensemble. Hein. C'est vrai qu'il y a un côté, ce que je disais aux auditeurs, écoutez Christian Alex, un gars passionné et passionnant dans ce qu'il dit, il va nous apprendre plein de choses et tout, et on pourrait faire un autre épisode de notre interview, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Voilà, en tout cas, merci, en tout cas, bonne programmation aussi cette année. Il y a Formation, on aurait pu en parler, oui. Qu'on va passer tout de suite, ce duo britannique, tiens, on va en parler, allez. Poursuivons un petit peu. Formation, vous pareil, c'est un groupe moi que j'avais fait découvrir là en janvier, puis je l'ai vu comme ça dans la prog, je dis ah ouais, chouette.
Ben ça, en fait, c'est un groupe, on avait écouté un single l'année dernière, et c'est JD Beauvalet pour le coup là. Il y a un moment, on avait fini de programmer notre plage du samedi, il nous manquait 2-3 places, et puis je ne sais plus avec qui on hésitait. On hésitait entre trois groupes et il y avait Formation dedans. Et puis on s'est fait un Skype avec JD, Kem et Jean-Paul. Et puis on était d'accord sur l'autre groupe. Je ne me rappelle plus qui c'était. Et puis finalement, on dit allez hop, on choisit ce groupe là et puis JD dit ouais mais moi j'ai vu l'autre coup à Londres, la Formation c'était cool, mais bon d'accord, pas de problème. Et du coup j'ai on dit bon bah allez écoute, si JD a aimé Formation, on y va, on fait Formation. Et du coup on s'est décidé sur Formation parce que JD avait vécu une expérience du live qui était juste géniale, et pour nous c'est ça qui comptait, tu vois, avant tout, c'est que déjà on aimait bien musicalement ce qu'on avait entendu, et en plus on était sur un groupe, un véritable groupe de scène, et je pense que j'ai eu des retours sur d'autres concerts que ouais, c'est un truc sur scène, c'est une vraie expérience, un peu ça peut ressembler un peu à LCD Sound System, en fait, Formation. Dans le,
d'accord. Mais dans le single, le là, tu sais, qui commence par le piano, comme ça, tu vois, celui qu'on entend là, sur le fond, il me rappelle un petit peu, dans la rythmique, comme dans la façon de chanter, un peu Cold War Kids.
Oula, t'es allé chercher loin.
Ah ouais, non, réécoute le premier de Cold War Kids.
C'est tout à fait tort, mais t'es allé chercher loin le truc, j'aurais pas pris aussi loin, mais pourquoi pas.
Tu vois, je prends de la graine, hein, Primal Scream, Etienne Dao.
Non, mais c'est moins le grand écart. Quoi.
C'est moins le grand écart, c'est vrai. Il y a la belle Courtney Barnett aussi qui sera là.
Oh, mais je suis amoureux.
C'est vrai, ouais.
Mais oh. Cette fille, je sais pas pourquoi, elle a un charme de malade. Elle a, je sais pas, elle a un charme un peu androgyne comme ça. Elle, sa voix, ses textes, ses musiques, elle te fait frissonner, en fait. Alors, je sais pas si ça n'arrive qu'à moi, mais je l'ai vu 4 fois en concert et à chaque fois, c'est rare que je reste sur un concert en totalité, mais à chaque fois, je reste bloqué sur tout son concert, quoi.
Ouais.
Elle est assez exceptionnelle. Les albums, les deux albums, moi, j'écoute vraiment avec plaisir à chaque fois.
Côté pop, côté rock bien dur, elle fait un grand écart quand même, c'est bien hein, sur scène.
Il y a Anderson Paak aussi hein, quand même.
Oui, c'est chouette ça.
Il
m'a demandé
les coups de cœur tout à l'heure. Je trouve que lui c'est pareil, lui c'est vraiment l'artiste des 10 prochaines années. À mon avis, on va en bouffer pas mal du Anderson Paak. Le type, il est tellement bon qu'il sait faire un album avec Knowledge sur Stone's Throw, qui est un label complètement indé. Ils ont fait le projet qui s'appelle No Worries. Et d'un autre côté, de faire un album avec Dr. Dre, tu vois, pour aller taper plus la FM américaine, mais il le fait vraiment avec classe. Et son nouvel album arrivera en 2017, produit par Dre. Quand tu vois la qualité de tout ce qui est arrivé derrière, là, tu te dis que le gars, il va faire fort. En plus, sur scène, c'est un mélange entre c'est un showman à la Raphaël, sadique, musicien, chanteur, batteur, et puis performeur hip-hop à la Q-Tip, tu vois. Donc lui c'est vraiment, c'est un drôle, c'est un lustique qu'il faut aller voir vraiment sur scène.
C'est quand Anderson Paak?
C'est le dimanche. Sur la scène de la plage, en même temps que les Kills. Bon, il faudra jongler, mais c'est faisable.
Ouais, les Kills, bon bah aussi, on va pas reparler, l'album génial, le dernier.
Oui.
Courtney Barnett, ça sera le dimanche aussi, c'est ça?
Dimanche aussi, ouais, le dimanche de Zasson et
ouais, le dimanche,
mec qui est fan de pop culture rock, hip-hop, enfin tu vois tout ce qui est un peu actuel à part ZZ Top. le dimanche il a vraiment de quoi faire.
Ouais, il a une belle gueule le dimanche. Ratatat aussi, c'est dimanche aussi ça je crois.
Ratatat, Caribou, M83, Mac DeMarco. Action Bronson. Enfin, franchement, le dimanche, moi, si j'avais mon billet à prendre en tant que public, enfin, si j'étais public, je serais venu incontestablement le dimanche. Le samedi, il y a plein de trucs aussi qui m'intéressaient, mais si on m'avait dit de choisir une journée, c'est le dimanche.
Ouais. Les Last Shadow Puppets, ils vont venir avec leurs cordes et tout, alors pas pour se pendre, hein, mais ça va être un orchestre sur scène. Ils vont être combien? Ça va être...
Ça varie à chaque fois en fonction de leur problématique de tournée, en fait.
D'accord.
Parce que quand ils attaquent les gros festivals et qu'ils doivent mettre les bus et les camions sur la route et que ça commence à leur coûter pas mal de blé, ben du coup, à coup, c'est au début, c'était 25 cordes. Maintenant, je crois qu'ils ont vraiment réduit leur voilure. Mais c'était très ambitieux, en tout cas, au début.
D'accord. Et ça sera à quelle heure, les Last Shadow? Après les Insus ou non, avant?
La Shadow, c'est juste avant les Insus.
C'est juste avant.
C'est à 20h15, 21h30.
D'accord.
Mais juste là, si les gens veulent, ils vont sur le site des Eurokéennes. Le programme, tu peux le télécharger. Tu as toutes les horaires. Enfin, les horaires sont en ligne.
D'accord.
Et normalement, il n'y a rien qui devrait bouger, en tout cas, sur toutes les horaires actuelles.
Ok. Bon, bah, ça marche. Bah, merci en tout cas, Christian.
Ben, c'est moi.
On se voit sur le Festoche. Et puis,
voilà, on se voit au Rock. Et puis, à l'année prochaine.
Puis à bientôt. Ça marche.
Okay.
Ciao, ciao.
Merci. À très vite. Ciao.
Allez, on parlait de Formation. Bah, on les écoute tout de suite avec leur premier single.